Studio Tamani, voici les informations en français.
Jeudi 31 octobre 2024, exactement 8h dans ce studio, même heure à Saint-Kadiolo et à Gao dans la cité des Askia. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale. Les titres. Plus de 700 hectares de périmètre risicole exploité sont menacés d'inondation si le pont du lac Oro cédait à Tonka dans la région de Tombouctou. Mais les habitants ont pris le devant en initiant des travaux de réhabilitation. Le dossier des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin dernier était devant la cour d'appel de Bamako ce mardi 29 octobre 2024. La décision de justice est renvoyée au 12 novembre prochain. Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, c'est le thème de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siaou qui a ouvert ses portes le vendredi dernier. Le Mali et le Niger sont les pays invités d'honneur. Le développement à suivre dans un instant avec Adama Amadou Haïdara à la mise en onde Noumdjiri. Plus de 700 hectares de périmètre risicole exploités sont menacés d'inondation à Tonka dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou. Une zone lacustre agro-sylvopastorale et carrefour économique du trafic routier dans la région. Depuis quelques mois, il ressort du constat des habitants l'état détérioré du pont, jalonné des brèches et fissures causées par la montée spectaculaire des eaux du fleuve Niger. À l'initiative du Conseil communal de la jeunesse, la population s'est fortement mobilisée la semaine dernière pour les travaux de colmatage des brèches. Notre correspondant, Almoudou Mahamane Bangou, était présent aux travaux.
Face à la menace crucielle des eaux du fleuve Niger et ses répercussions sur les 15 000 hectares du lac Oro, dont 700 exploités, la population riveraine de Tonka veut faire barrage à l'eau durant une journée. Elle a travaillé à réhabiliter le pont reliant Tonka à Niefenke, en proie à la pression des eaux du fleuve Niger. À l'origine de cette initiative, le conseil communal de la jeunesse de Tonka, Ali Touré, et le secrétaire général.
C'est dans le but de trouver des solutions pour éviter les dégâts de la montée des eaux. Ce pont qui Tonka vers le sud, s'il est dégradé ou touché, nous serons coupés du sud. Il est déjà fissuré, il pourra céder à la pression de l'eau.
Ces travaux interviennent à un moment où les populations ont entamé la moisson du riz dans le lac Oro. Les autorités communales et légitimité traditionnelle ont salué l'initiative citoyenne de la jeunesse qui devrait prévenir un désastre. Mahamman Yatara, troisième adjoint au maire de la commune rurale de Tonka.
Nous pourrions enregistrer des dégâts car le lac abrite 15 000 hectares. Donc s'il y a effondrement, les champs seront atteints alors que nous sommes en période de moisson. Ce n'est pas que le lac Oro. Au-delà, on a 700 hectares de champs de riz. Aujourd'hui, les populations se mobilisent afin de fermer les trous de la digue.
Selon les initiateurs, les travaux se poursuivront jusqu'à l'atteinte des objectifs de Goundam Almoudou Mahamane Bangou pour Studio Tamani.
Dans le cercle de sang au centre du pays, c'est plus de 2000 hectares de champs qui sont totalement submergés par les cours d'eau. Les zones touchées sont entre autres les communes de Siadougou et Wolon. Ces chiffres ont été annoncés ce mercredi 30 octobre par le service de l'agriculture de sang. Cependant, le chargé des suivis d'évaluation prévient que d'autres superficies sont également sous menace si le niveau d'eau continue ainsi. Youssouf Koulibaly, chargé de mission de l'évaluation du service local de l'agriculture de sang, au micro de notre correspondant Irene Diara.
Faites-vous un peu le calcul et par rapport au rendement, que ce soit les céréales sèches ou les mille. Multipliez le rendement par plus de 2000 hectares. C'est vraiment une production énorme, un manque à gagner pour les producteurs. En ce sens que la majorité de ces producteurs-là, leur production, c'est pour satisfaire les besoins alimentaires et vendre le surplus pour les autres besoins secondaires. S'il y a plus de 2000 hectares déjà inondés, ça veut dire que c'est déjà un manque à gagner. On ne pourra pas évaluer tout de suite qu'il y aura d'autosuffisance alimentaire, mais on peut dire quand même qu'il y a un manque énorme à gagner au niveau de ces producteurs-là.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. 3 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la somme offerte par la coopération espagnole au gouvernement du Mali. Le chèque a été remis ce mercredi 30 octobre au commissariat à la sécurité alimentaire. Cette assistance vise à soutenir le programme de résilience en faveur d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un geste apprécié par les autorités maliennes. Les détails à suivre avec Halima Yattara.
La réception a été faite par le ministère commissaire à la sécurité alimentaire et le programme alimentaire mondial PAM. Pour le directeur pays de ce dernier, Ibrahim Diallo, ce don va contribuer à faire face aux besoins humanitaires urgents.
Le PAM a besoin de mobiliser près de 98 millions de dollars américains supplémentaires. Grâce à votre contribution, nous leur apporterons, aux côtés du gouvernement, un peu de réconfort et les aiderons à reconstruire progressivement leur avenir.
Du côté des autorités maliennes, cette aide sera injectée dans le programme humanitaire annuel, enclenché pendant la période de soudure. Il vise plus de 45 000 personnes, selon Erdogan Agmohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire.
Les plus touchés par la sécurité alimentaire et les conflits dans les régions de Kai, Ségou, Mopti, Tombouctou, Kidal, Menaka, Gao, Koulikoro et Sikasso. De cibler 5639 filles et femmes enceintes et allaitantes pour prévenir la malnutrition.
Pour le donateur du jour, représenté par M. Antonio Guilherme Hidalgo, ambassadeur de l'Espagne, faire face à l'insécurité alimentaire est plus qu'un devoir institutionnel.
30 000 ménages vulnérables sur plus de 160 000 ont pu être soutenus en 2023 à Gao. Une évaluation faite ce mardi 29 octobre 2024 lors d'une rencontre des membres de la société civile et des acteurs de la sécurité alimentaire. Elle visait à échanger sur la situation des distributions des aides alimentaires. Ces acteurs envisagent cette année plus d'actions ciblées pour aider les familles les plus fragiles et ainsi mieux contribuer à la solidarité et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'affaire des 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin était devant la Cour d'appel de Bamako ce mardi 29 octobre 2024. Le délibéré de cette audience est attendu le 12 novembre prochain à la juridiction. Ces acteurs politiques sont tous membres de la coalition signataire de la déclaration du 31 mars. Une demande de liberté provisoire a été introduite par les avocats depuis quelques mois qui a bénéficié d'un avis favorable du juge d'instruction, mais la décision a ensuite été contestée par le procureur, selon Maître Mamadi Samadjara, un des avocats de Maître Mohamed Ali Bachili et autres détenus. Au micro de Moussa Mali Sissoko.
À la suite de l'audition, au fond, nous avons déposé une demande de mise en liberté sur la base de laquelle le juge d'instruction a pris une ordonnance de mise en liberté avec un contrôle judiciaire. Malheureusement, le procureur de la commune 5 a relevé appel. L'affaire était hier devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Il y a eu des débats et l'affaire a été mise en délibéré pour le 12 novembre. Ils sont poursuivis pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et complicité et des troubles à l'ordre public par violation du décret qui interdisait les activités des partis politiques. Et ça, c'est le fond de l'affaire. Mais ce qui nous concernait hier, ce n'était pas le fond, hein, c'était juste la mise en liberté en attendant que le juge d'instruction ne finisse avec ses enquêtes.
Plus de 160 détenus, dont des femmes et des enfants incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Kadiolo. L'information a été donnée par le régisseur de la maison d'arrêt de Kadiolo le dimanche dernier, 27 octobre 2024. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les femmes et les chefs de quartier de la ville. L'objectif de cette rencontre est d'attirer leur attention sur ce nombre important de détenus et les inviter à leur venir en aide. Une vingtaine de personnes, dont les chefs de quartier, les responsables des jeunes et des femmes, ont pris part à cette rencontre. Comme annoncé dans les titres, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao a été lancée vendredi dernier par le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour cette année, le thème choisi est « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Le Mali et le Niger sont les invités spéciaux. L'une des innovations majeures de cette 17e édition est la mise en place du village de l'Alliance des États du Sahel. Cependant, les exposants maliens déplore quelques manquements. Doula Dia est un exposant malien et responsable du village de l'Alliance des États du Sahel au micro de nos confrères du studio Yafa.
C'est la 14e fois que nous participons au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est une bonne opportunité pour exposer ces produits, en les faire connaître et en tirer profit. C'est aussi une occasion de recevoir d'autres expériences. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est le même pays. C'est comme si nous avons quitté chez nous et nous sommes chez nous. La seule difficulté à déplorer, c'est les badges identiques, ceux des exposants et des visiteurs. Si les organisateurs pourraient mettre en place des badges uniquement pour les exposants.
Exposant Blau Dama.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans notre chronique du jour, on parle des personnes qui ont tout vécu. Elles ont toujours une histoire à narrer devant n'importe quelle situation. La chronique zoom sur avec Soumaïla Issamiga.
Wallahi, cette histoire m'est arrivée exactement comme tu viens de la raconter. Et Momo se lance comme d'habitude à nous relater une aventure similaire qu'il aurait vécue. Tu dis à Momo qu'on t'a volé dans l'avion, il répondra automatiquement avoir vécu une situation similaire. Pire, il va même bonifier son cas. Mais dans son cas, c'est la poche de son pantalon qui a été déchirée au moment où on lui a dérobé son argent. Un jour, son ami de gré Amadou disait qu'après 8 ans de relation, dont 2 ans de fiançailles, sa fiancée a rompu leur relation. Momo, assis à côté, répondit avec une histoire similaire. Selon son histoire, sa fiancée n'a plus voulu de lui après 10 ans de relation. Momo a tellement vécu des situations qu'on douterait de ses 25 ans d'âge. Certes, des sages disent que l'adulte est un enfant qui a trop vécu, mais sachez également qu'il y a des choses qui n'arrivent qu'une fois sur 1000. Donc, sachons rester modestes.
Sachons rester modestes. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 321. Bonne journée à tous. Définis comme étant des troubles du système hormonal endocrinien, autrement dit, les maladies endocriniennes, j'y arrive, sont des motifs de consultation dans nos services de santé. Elles peuvent affecter la croissance, le métabolisme et la reproduction, selon des spécialistes de la santé. On en sait plus dans ce magazine santé réalisé et présenté par Ali Cissé.
L'endocrinologie est la spécialité médicale qui s'occupe des maladies qui ont en rapport les glandes, selon des professionnels de la santé. Docteur Martin Djara, endocrinologue, nous cite quelques pathologies susceptibles d'être considérées comme maladies endocriniennes.
Il y a d'abord le diabète sucré, qu'on appelle les dysfonctionnements au niveau du pancréas, qui est une glande endocrine. Il y a aussi les maladies thyroïdiennes, notamment l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Il y a également ce qu'on appelle les troubles de production d'une hormone qu'on appelle la leptine, responsable de la gestion du poids. Et ces troubles qui concernent la leptine donnent ce qu'on appelle l'obésité.
Comme maladies endocriniennes, il y a également les perturbations des cycles menstruels, une prise excessive de poids ou encore un manque de sommeil, affirme professeur Amadou Bokoum, gynécologue. Ce praticien au CHU Gabriel Touré indique que la prise en charge de certaines pathologies telles que le syndrome polykystique nécessite l'intervention d'autres spécialistes.
Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un ensemble de signes. Généralement, c'est des femmes qui ont une prise de poids. C'est des femmes qui ont un trouble du cycle. C'est des femmes qui ont souvent un désir d'enfant. Quand on les fait des analyses pour les hormones sur ce plan endocrinien, on trouvera qu'elles ont des hormones masculines en grande quantité dans leur sang. C'est des femmes qui vont avoir souvent des barres ou bien des poils au niveau des jambes ou bien au niveau du bras. Et à l'échographie, qui ont des ovaires qui portent de micro-follicules. Donc on appelle ça le syndrome des ovaires polykystiques. Et ces syndromes-là, la prise en charge se fait obligatoirement avec le spécialiste en endocrinologie. l'endocrinologie et les gynécologues obstétriciens.
Docteur Amagara Togo est aussi endocrinologue et diabétologue. Ce spécialiste des maladies endocriniennes indique que la variabilité de l'état émotionnel, la difficulté de concentration résulte des perturbations hormonales.
Quand on sort de l'hypophyse, les plus fréquentes, ce que les gens connaissent, c'est la thyroïde, les goitres. Mais ils ne savent pas que c'est une maladie endocrinienne. Quand on prend la thyroïde, il y a les goitres, il y a l'hyperthyroïdie, il y a l'hypothyroïdie. Mais il y a le contraire qui est insuffisance liée à la sécrétion de ces hormones. Ce qu'on appelle insuffisance surrénalienne. C'est une maladie que beaucoup de médecins passent à travers et si c'est aigu, ça peut tuer très rapidement.
Le docteur Togo poursuit en soulignant que la perte de poids ou encore l'obésité n'est pas forcément liée aux maladies endocriniennes.
Toutes les personnes minces ne sont pas malades sur le plan endocrinien. Ça peut être lié à l'alimentation. Et toutes les obésités ne sont pas liées à des maladies endocriniennes. Mais il y a l'obésité liée à une tumeur hypophysaire. L'obésité en général, c'est lié à des problèmes de nutrition ou à des problèmes de maladies métaboliques.
Le diagnostic d'une maladie endocrinienne n'est pas facile, révèlent des experts de la santé. Aussi, ils soulignent qu'une meilleure prise en charge d'une pathologie endocrinienne nécessite l'implication d'autres spécialistes.